Voix de Nue par Toufik Hakem et cette semaine je reçois
Michel Simon, critique et historien du cinéma.
Quatrième épisode, les amis américains. Ouais, parce que vous êtes allé aux États-Unis, vous nous l'avez déjà raconté, Michel Simon, mais vous avez suivi le cinéma américain d'une manière, j'allais dire très continue, puisque vous avez écrit des livres autour, des livres d'entretien avec Kubrick, des livres sur Billy Wilder, sur Kazan.
Sur l'Osée.
L'Amérique, c'est un pays qui vous a fasciné quand vous étiez jeune, ou qui vous fascine toujours d'ailleurs?
À vrai dire, il y a deux pôles dans mes goûts étrangers. C'est d'une part les pays anglo-saxons, l'Angleterre où je suis allé très souvent, et l'Amérique, évidemment, qui sont des philosophies pragmatiques des pays de constitution démocratique et d'une grande variété d'opinions autorisées. Il y a très peu de censure, etc. Et ça m'a toujours passionné, le côté anglo-saxon. D'ailleurs, je me suis posé la question une fois, comment se fait-il qu'il y a si peu d'écrivains anglais ou d'écrivains américains qui se sont ralliés au fascisme, au nazisme et au communisme, alors qu'en France, ça pullule. Je veux dire, le nombre d'écrivains français qui se sont jetés dans les bras d'Hitler ou se sont jetés dans les bras de Staline, c'est considérable. Et ça n'a jamais attiré les anglo-saxons qui ont, à part Ezra Pound, qui était un Américain un peu malade mental, qui effectivement était fasciste, aucun des grands écrivains américains n'a eu de sympathie pour les pays totalitaires, ce qui n'est pas le cas de Aragon en France, ou de Drieu-La Rochelle, ou de Brassillac, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. C'est déjà une chose. Donc ce qui m'attirait dans les pays anglo-saxons, c'était cette tolérance, ce respect finalement des opinions. Et puis l'autre pôle de mes intérêts étrangers, c'est l'Italie. J'ai toujours été extrêmement sensible à ça. C'est le côté esthétique de l'Italie, c'est-à-dire la beauté, la beauté des villes, la beauté de la peinture, la beauté de la musique. Enfin, c'est une culture dont je me sens très proche.
Mais restons aux États-Unis, en Amérique. Quand vous décidez d'aller là-bas, c'est pourquoi au juste, Michel Simon?
D'abord, c'est des souvenirs d'enfance, c'est-à-dire à 6 ans, 5 ans, de voir les Américains débarquer, lancer des boîtes de conserve.
Et des chewing-gums.
Des chewing-gums, etc. Et retrouver la liberté grâce à eux, comme si l'Ukraine, il n'y avait pas eu les États-Unis, l'Ukraine serait déjà une colonie russe. On doit tout aux États-Unis pour l'Ukraine. C'est vraiment eux qui ont sauvé la mise. Donc, ils ont été tard à s'y mettre. Mais ils sont entrés dans la Deuxième Guerre mondiale et c'est grâce à l'Amérique qu'on a retrouvé la liberté. Donc il y avait ce côté sentimental et puis il y avait le cinéma. C'est-à-dire qu'effectivement, pour les jeunes, tous les enfants, etc., du monde entier, c'est les films américains qui attiraient davantage, aussi les films français, bien sûr, mais essentiellement les grandes comédies musicales, les grands films de gangsters dont j'ai déjà parlé. Donc il y avait tout cela, plus la littérature et la langue, parce que j'avais fait des études d'anglais, je parlais couramment l'anglais, je connaissais bien l'Angleterre, et donc j'étais encore très heureux de pouvoir aller un an aux États-Unis et d'étudier là-bas.
Vous avez parlé de littérature américaine, est-ce que vous pouvez nous parler des auteurs que vous avez lus jeunes, qui vous ont accompagné toute votre vie, Michel Simon?
Oui, alors il y avait évidemment, c'est des classiques, hein, c'est pas très original, c'est Mark Twain, c'est Steinbeck, c'est Hemingway, un peu plus tard Faulkner, qui est les plus difficiles. Après, il y a eu évidemment les Saul Bellow, il y a eu Philip Roth, ça c'est plus récent. Mais dans ma jeunesse, c'était les prix Nobel, les grands classiques de la littérature américaine moderne.
Et comment vous vous situez par rapport à ceux qui critiquent l'Amérique, vous qui avez vu tant de films américains dans votre jeunesse? On a parlé aussi d'impérialisme culturel américain, et puisque vous avez cité Mark Twain, aujourd'hui on essaye de relire d'une manière très critique et même d'essayer de corriger ce qui a été écrit par l'auteur même concernant les Noirs d'Amérique par exemple. Vous en pensez quoi aujourd'hui, Michel Simon?
Moi, vous savez, je crois que les Noirs... Quand j'étais professeur à Paris 7, maître de conférence, je me rappelle, j'ai montré Naissance d'une nation de Griffith, Et
dont on peut dire que c'est un film raciste.
Totalement raciste, un film dégoûtant. Et j'avais des étudiants noirs qui me remerciaient. Non pas, ils ne pensaient pas qu'il fallait interdire ce genre de projection. Ils disaient, il faut montrer ce film pour voir comment nous avons été traités, comment nous avons été salis, comment nous avons été caricaturés. Et donc, il y avait beaucoup de noirs qui étaient contre la censure. Cette censure aujourd'hui qui est pratiquée, c'est-à-dire il faut refaire les poèmes, il faut censurer les films, etc., c'est épouvantable. Parce que si on n'apprend pas aux gens les erreurs du passé, on va les recommencer.
Et pour l'impérialisme américain ?
Mais l'impérialisme américain, vous savez, moi je suis très anti-américain et en même temps très pro-américain. C'est-à-dire c'est un pays qui à la fois me fait peur, par son racisme profond, par Trump. L'Amérique, c'était à la fois Trump et Roosevelt. On peut pas avoir un jugement global sur un pays qui a donné des gens aussi différents que Trump et Roosevelt, que Kennedy et Nixon. C'est impossible. C'est Sidney Pollack qui disait « Hollywood, c'est tout de même extraordinaire que sur ce fumier qu'est Hollywood, tant de belles œuvres ont fleuri ». De fleurs se sont épanouies. Et c'est ça le paradoxe. C'est que l'Amérique, c'est à la fois une bêtise crasse, une inculture profonde, un racisme, etc. Et en même temps, la défense de la démocratie, venir secourir... Alors on dira, évidemment, ils sont intervenus en 1945 pour vendre du Coca-Cola, mais ça, c'est un peu facile. Je crois qu'ils sont intervenus aussi avec un sens du devoir par rapport aux Anglais, par rapport à la culture européenne, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis très ambivalent. Et moi, ce que j'aime, c'est l'Amérique dont je viens de parler. Et ce que je déteste, plus que tout, c'est l'Amérique dont je viens de parler aussi.
Alors, racontez-nous ce voyage aux États-Unis.
Écoutez, il y a eu d'abord, comme je vous disais, mon père était d'origine hongroise et la famille était en diaspora. Donc, il y avait trois oncles qui étaient en Argentine, un oncle et une... qui était en Angleterre, et puis il y avait en Amérique, il y avait une sœur, enfin une sœur de mon père et deux sœurs de mon père. Donc j'étais allé voir la famille tout même en Amérique. J'avais fait des voyages, deux voyages un peu de famille quand j'avais 15 ans, 16 ans.
Où ça ?
À New York. Et ensuite, quand j'étais étudiant, j'ai donc sollicité une bourse Fulbright. Et c'est ainsi que j'ai été envoyé au collège de Amherst, et dont j'ai parlé dans une émission, dans une de ces émissions, où j'ai pu vraiment connaître en profondeur l'enseignement, le dialogue, la fraternité avec les étudiants, etc. Et j'ai été vraiment conquis, mais c'était une expérience un peu exceptionnelle, parce que Amherst était un peu l'équivalent de Louis le Grand ou d'Henri IV, mais différemment, mais c'était un peu l'élite de l'Amérique, et je peux pas dire que c'était l'Amérique moyenne, c'est pas l'Amérique du Middle West.
Que vous avez connu aussi ou pas du tout ? L'autre Amérique, l'Amérique profonde ?
L'Amérique profonde, oui, bien sûr, parce que j'ai fait un grand voyage avec deux amis allemands qui étaient comme moi des étudiants Fulbright, et un Américain, on a traversé l'Amérique en voiture. On a passé un mois à travers les États-Unis parce qu'à l'époque, les gens riches qui allaient en Californie, ils y allaient en avion et ils demandaient à des étudiants, ils payaient l'essence, ils payaient pas d'autre chose que l'essence, ils demandaient à des étudiants de prendre leur voiture et de leur amener la voiture sur la côte ouest. Et donc, j'ai eu l'occasion de connaître l'Amérique profonde pendant un mois et ensuite, j'ai quitté... San Francisco pour Los Angeles et ensuite je suis allé au Mexique. J'ai passé 3 semaines à Mexico où j'ai même regardé le Buñuel dans l'annuaire. J'ai téléphoné à Buñuel, j'avais 20 ans, il m'a reçu chez lui, etc. Alors qu'il détestait la presse, mais je n'étais pas journaliste, sinon j'aurais jamais été invité.
Et Los Angeles, c'est aussi Hollywood. Est-ce que vous avez été attiré par l'usine de rêve hollywoodienne ? Est-ce que vous êtes allé voir à quoi ça ressemblait ?
Oui, j'ai effectivement été... Mais c'est très compliqué parce que je conduis pas et je me suis retrouvé seul à Los Angeles. Et j'avais un élève à Amherst qui était le fils de Dan Duryea qui jouait un des méchants dans dans les films de Fritz Lang, etc. Un très très bon acteur qui jouait toujours des sales types, etc. Et il m'avait donné l'adresse de son père pour que j'aille le voir. Et donc moi j'y suis allé, j'ai pris un bus et après j'ai marché dans Los Angeles. J'étais arrêté par la police parce que à Los Angeles on ne marche pas dans la rue. C'est à l'époque c'était très très suspect. Donc j'ai été arrêté et je n'ai jamais pu arriver jusqu'à Dan Duryea. Los Angeles c'est pareil, c'est un désert culturel. À l'époque, c'est ce que disait Mankiewicz, quand on survole Los Angeles, c'est un terrain vague. Il n'y a pas d'université, il n'y avait pas de bibliothèque. Mais c'était en 1950-60, où depuis Los Angeles est devenue une ville extrêmement cultivée, etc. Mais pendant, par exemple, la grande époque de Hollywood, les juifs allemands qui étaient réfugiés à Los Angeles, Thomas Mann, qui n'était pas juif, mais les juifs allemands, mais aussi les intellectuels qui avaient fui Hitler, ils se retrouvaient entre eux comme des îlots de culture dans des pays qui étaient vraiment, dans une ville qui était vraiment très peu portée sur la culture. Et là, c'est la même chose. On a un peu médit des producteurs hollywoodiens qui étaient d'une certaine façon des gens incultes, du point de vue de la philosophie, de certains domaines, mais qui en même temps connaissaient très très bien le cinéma et appréciaient les metteurs en scène beaucoup plus que les producteurs d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les producteurs américains, ils sortent des grandes écoles de business, ils veulent aller à Cannes, ils veulent monter les marches, mais ils n'ont pas une vraie connaissance que les grands producteurs comme Zanuck, par exemple, que Walter Wanger, étaient des connaisseurs admirables du cinéma. Par exemple, les correspondances de Zanuck avec les metteurs en scène, moi j'ai découvert en préparant mon livre sur d'entretien avec Kazan, les mémos de Zanuck à Kazan, qui faisaient 10 pages sur Viva Zapata, où il donnait tous les détails qui n'allaient pas dans ce qu'il avait vu, dans les rushs. Il dit « on va recommencer ce plan parce que la lumière n'est pas bonne », etc. Et il payait pour que ça soit mieux. Et il avait un œil de critique vraiment formidable. Et Kazan, qui se résistait au producteur, en même temps, appréciait les remarques parce que c'est un vrai dialogue. Donc il y a beaucoup de clichés sur Hollywood, en particulier comme sur l'Amérique.
Est-ce que vous arrivez aux États-Unis avec un background culturel de l'époque ? Est-ce que, par exemple, la Beat Generation a compté pour vous, Michel Simon, ou vous étiez complètement à côté de ce mouvement culturel ?
Non, j'avais lu Kerouac, j'avais vu Shadows de Cassavetes, par exemple, qui était également un film indépendant, très différent de Hollywood. Je connaissais, moi, la poésie, peut-être, la poésie beat.
Allen Ginsberg et compagnie. Mais vous étiez comment ? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, est-ce que vous avez testé les drogues à l'époque, comme tous les jeunes qui sont passés par...
Non, j'étais sans doute déjà un vieux, parce que je n'étais pas attiré par les drogues.
Alors, parlons des Américains que vous avez rencontrés. Allez, commençons par, puisque vous avez eu l'extrême privilège de le rencontrer, Billy Wilder.
Alors, Billy Wilder, en fait... Je l'ai rencontré grâce à Annie Trego, avec laquelle j'avais fait le film sur Kazan. Et Annie Trego m'avait auparavant aidé à rencontrer Billy Wilder pendant qu'il tournait La vie privée de Sherlock Holmes à Londres. Elle lui avait donné un coup de fil parce qu'elle avait été sa stagiaire sur Ariane, Love in the Afternoon, avec Gary Cooper en 54, je crois, 55, qui tournait à Paris. Elle sortait de l'IDEC. Et elle avait été très appréciée par Wilder, et donc elle était restée en contact avec lui. Et j'étais allé à Londres, et j'avais fait un grand entretien avec Wilder, que j'ai publié dans Positif. Et Wilder était très touché à l'époque, parce que il était dans une période où il était plus du tout le chouchou de la presse. Il avait fait des films qui n'avaient pas très bien marché. C'était 10 ans après Certains Lame Show, qui avait été un énorme succès, et après La Garçonnière, il avait fait des films qui avaient beaucoup choqué, qui étaient très très acides, très, par exemple Kiss Me Stupid, qui est aujourd'hui un classique, mais qui à l'époque avait été assassiné par la critique. Donc il appréciait des jeunes gens comme moi, qui avaient de l'intérêt pour lui, même dans ces périodes de désamour. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça que se font les liens avec les metteurs en scène. C'est pas quand ils sont entourés de 50 flatteurs, mais c'est quand des gens critiques d'une revue respectée comme Positif, et il parle parfaitement le français. Il a connu, il parlait un français courant, donc il connaissait la France. Il appréciait le fait que Positif nous défende ses films. Donc j'avais vu Sherlock Holmes et on a fait la couverture dessus, on a fait un grand ensemble sur lui. Ensuite, je l'ai retrouvé en Italie. J'ai écrit dans l'Express un reportage sur le tournage de Avanti, le film qu'il a tourné en Italie. Et donc, on a beaucoup sympathisé. Et ensuite, j'ai profité de ma connaissance de Wilder pour proposer à Nitrego de faire un film. On a fait Elia Kazan ensemble. Et on a passé 3 jours à Los Angeles pour tourner le portrait de Billy Wilder chez lui.
Comment fait le critique quand il est face à des réalisateurs pareils? Est-ce que il leur parle y compris de leurs faiblesses? Par exemple, pour Kazan, est-ce que vous avez pu parler avec lui de toute cette période du macartisme où il a été obligé, je ne sais pas, où il a pris quand même le choix de dénoncer ses amis? Est-ce que ces périodes-là, vous les avez évoquées avec Kazan?
Si vous regardez le film, Elia Kazan, Outsider, je lui ai posé des questions très franches. Je lui ai même dit, vous avez combattu à juste titre l'URSS, mais en même temps, vous pratiquiez la dénonciation qui se pratiquait en URSS. Donc, il m'a répondu, il m'a dit, c'est pas la chose la plus belle que j'ai fait dans ma vie, mais en même temps, je regrette pas. Il a toujours défendu ses positions. Il pensait qu'il y avait un danger mondial, que des Américains donnaient des secrets aux Russes. C'était en Occident, c'était courant. Le frère de Pontecorvo, par exemple, en Italie, qui était communiste, était un grand savant atomiste, et il a quitté l'Italie pour aller vivre en Russie avec les secrets atomiques italiens. Donc, il a donné à l'ennemi de l'Italie des armes pour détruire l'Italie. C'était pas des enfants de cœur, je veux dire, on n'était pas dans une situation. Le Parti communiste américain était très violemment stalinien. Et le Parti communiste américain n'a jamais protesté contre les exécutions en Russie. Tout de même, en Russie, quand on était dissident, on allait au goulag, on était exécuté, on était fusillé.
Mais vous n'étiez pas d'accord avec les listes noires du sénateur McCarthy?
Non, j'étais contre les listes noires, mais je m'étonnais que les victimes des listes noires aux États-Unis, Dalton Trumbo, Abraham Polonsky, n'aient jamais protesté contre les listes noires en Russie. Ils admiraient la Russie, y compris avec Staline. Ils auraient pu dire, c'est horrible d'exécuter les gens parce qu'ils sont anticommunistes. Or, les anticommunistes en Russie étaient envoyés au goulag. Comment se fait-il que ces gens qui étaient victimes eux-mêmes du gouvernement américain, enfin de McCarthy, n'ont pas protesté contre l'exécution des Russes? Ça m'a toujours stupéfait, ils auraient pu s'indigner.
Kazan, Billy Wilder, Kubrick, on en a parlé un peu, mais par exemple, l'Amérique de Kubrick, c'est quoi pour vous, Michel Simon? Sur quelle affinité vous avez consolidé ce rapport avec ce grand réalisateur qu'est Stanley Kubrick?
D'abord, il y a le film marquant de Kubrick qui est de 57, j'avais pas encore 20 ans, c'est Les Sentiers de la Gloire, qu'on allait voir en Belgique parce qu'il était pas censuré, il était retenu. C'est-à-dire les artistes associés qui distribuaient le film en France ont préféré ne pas le proposer à la censure parce qu'ils savaient que ça serait interdit et le gouvernement français leur a conseillé de ne pas le présenter. Les Sentiers de la Gloire, c'est les fusillades pour l'exemple pendant la guerre de 14. Ça a été traité par Lozet dans Pour l'exemple, ça a été traité par Francesco Rosi dans Les Hommes contre. C'est fusillés pour l'exemple que l'armée française a tué parce qu'ils avaient refusé d'aller se battre sur le front de la guerre de 14.
Et donc vous allez en Belgique pour voir ce film qui n'est pas distribué en France.
Qui n'est pas distribué en France.
On ne peut pas dire qu'il n'est pas
Il a
interdit.
Fallu 15 ans pour qu'il soit finalement distribué. Mais c'est un film qui avait beaucoup marqué, non seulement par sa qualité, évidemment exceptionnelle. J'avais vu auparavant L'ultime razzia, qui est un film de gangster de Kubrick, qui est un chef-d'œuvre du film noir. Donc c'est un metteur en scène jeune que j'avais repéré. Et ensuite, évidemment, j'ai vu Docteur Folamour, j'ai vu 2001, l'Odyssée de l'espace, et puis, finalement, on m'a proposé d'aller l'interviewer sur Orange Mécanique. D'abord, j'étais évidemment très impressionné, parce que je savais que j'avais un privilège extrême, puisque très peu de gens le rencontraient, il donnait très très peu d'entretiens, et c'est quelqu'un qui m'a frappé d'abord par... par son extraordinaire intelligence, par la concision de ses réponses, par la façon dont il savait exactement quoi dire et ce qu'il fallait dire, pas au sens de démagogique, mais ce qu'il fallait dire sur ses films. C'était quelqu'un d'une extrême cohérence intellectuelle. C'était quelqu'un de très, pas du tout méprisant, très, très respectueux de l'interlocuteur, demandant est-ce que ça vous satisfait, est-ce que vous avez obtenu les réponses que vous attendiez, etc. Donc, qui demandait une extrême fidélité dans la transcription de ce qu'il avait dit. Il fallait lui envoyer les textes. Et on avait envie de parler d'autre chose avec lui. Mais on avait tellement peu de temps, on avait une heure et demie maximum, donc j'ai jamais pu parler avec lui de son enfance, de son passé. J'ai consacré tout mon temps au film dont je devais parler.
Est-ce qu'il y a d'autres metteurs en scène qui vous ont marqué, Michel Simon ? Est-ce que vous avez rêvé, je sais pas, de rencontrer John Ford ou Howard Hawks pour parler, ou Hitchcock ?
J'ai rencontré John Ford, mais j'ai pas fait l'entretien. J'ai rencontré John Ford à un festival à Los Angeles, où il était invité avec Jean Renoir et avec Fritz Lang. Et c'était amusant parce que on me demandait de s'occuper de lui parce qu'il était un peu vieux, un peu irascible, un peu les gens n'avaient pas envie de passer des heures avec John Ford. Moi, j'étais ravi de passer des heures avec John Ford, à lui faire la lecture, à discuter avec lui.
Qu'est-ce que vous avez pu lire à John Ford ?
Le journal, il me demandait si je pouvais lui lire ce journal, etc. On parlait de ses films.
Et vous aimiez le cinéma de John Ford, vous qui nous avez dit dans le deuxième épisode que Jean-Luc Godard était de droite, vous n'allez pas nous dire que John Ford était d'extrême gauche, par exemple.
John Ford, c'est compliqué. D'abord, il n'a jamais été fasciste, je n'ai jamais sympathisant. Il n'a pas été de sympathie avec Mao Tse-Tung non plus. C'est un homme qui fuyait les extrêmes. C'était un démocrate de droite, mais qui a été de gauche pendant longtemps. Les Raisins de la colère, l'un des plus grands films sociaux faits en Amérique, et d'après Steinbeck, et c'est John Ford qui l'a réalisé. Et je trouve que les films de John Ford, c'est évidemment, il y a les clichés racistes dans les films de John Ford, comme dans tous les films de l'époque. Mais je dirais pas de John Ford que c'est un crypto-fasciste ou un ami de Hitler ou un ami de Mao Tse-Tung. C'était un homme de droite, de la droite constitutionnelle. Moi, je ne dirais pas de Giscard d'Estaing ou de De Gaulle que ce sont des fascistes.
Les choses se corsent avec un cas bien précis, Clint Eastwood, parce que vous aimez Clint Eastwood, Michel Simon, mais là, Clint Eastwood est allé jusqu'à soutenir Donald Trump. Ça...
Pas la deuxième fois.
Pas la deuxième fois, mais oui, mais... Mais que pensez-vous, justement, par exemple,
mais moi, je peux
de Clint
pas,
Eastwood
je n'ai pas... Bien sûr, je suis absolument scandalisé, choqué, profondément choqué par le soutien de Eastwood à Trump. Et c'est pas du tout John Ford, hein, Eastwood, parce que Trump n'est pas Roosevelt ou n'est pas les opinions de droite. Dans le cas d'Eastwood, c'est le problème de ses films. Moi, ce que je juge, quand Eastwood faisait l'inspecteur Harry, je n'ai pas aimé l'inspecteur Harry, qui était un film de vigilante où l'inspecteur se sert de son revolver pour tuer directement, sans passer par la justice, par la police. Donc j'étais très très anti-inspecteur Harry. Mais il y a énormément de films de Eastwood qui sont pas du tout des films que j'appellerais des films de droite ou réactionnaires. Donc tout dépend des films. Mais c'est pas parce que quelqu'un vote pour Trump que je vais dire du mal de son film. C'est le film que je...
Donc si je comprends bien, Michel Simon, vous êtes pour séparer l'œuvre de l'artiste.
Ah ben bien sûr, c'est évident. Il faut séparer l'homme de l'artiste, c'est pas possible autrement. Quand Adèle Hanel, par exemple, dit « Je ne sépare pas l'homme de l'artiste ».
La comédienne Adèle Hanel.
La comédienne qui s'en veut, qui en a beaucoup contre Polanski, par exemple. Elle dit « Moi, je ne sépare pas l'homme de l'artiste ».
Alors que vous avez défendu Polanski.
Oui, elle dit « Je ne sépare pas du tout ». En même temps, elle dit dans une interview à elle, je crois, « Mon écrivain préféré, c'est Louis-Ferdinand Céline ». Alors pourquoi elle reproche à Polanski des choses dans sa vie privée ? Et elle ne reproche pas à Céline. Comment peut-elle aimer les œuvres de Céline si elle aime Céline aussi, puisque c'est un antisémite qui a envoyé les enfants à la mort, qui a envoyé des juifs à l'Holocauste, etc. Elle ne devrait pas aimer Céline. Et moi, je peux admirer Le Voyage au bout de la nuit et en même temps détester la personnalité de Céline.
Michel Simon, je voulais aussi, bien sûr, vous poser la question sur le mouvement MeToo, puisqu'il a touché le milieu du cinéma. Ah, vous levez les yeux en l'air, mais c'est tout à fait normal que je vous parle de ça. Ça a touché le monde entier, ça a commencé dans le milieu du cinéma, et ça a beaucoup changé aussi. Le cinéma français, non ?
Oui, mais le MeToo, c'est un peu mon jugement sur l'Amérique, c'est-à-dire qu'il y a le pire et le meilleur. C'est un mouvement très important qui a fait faire des progrès considérables. Et puis aussi, c'est un mouvement qui, comme tous les mouvements, disons, de révolte, entraîne des excès. Moi, j'étais plutôt pour la Révolution française et pas pour la terreur. Et le fait de discréditer, de mélanger tout, c'est-à-dire Harvey Weinstein et Roman Polanski, me paraît vraiment scandaleux. Et le traitement de Woody Allen me paraît extrêmement choquant. Woody Allen qui a été innocenté par tous les juges, par tous les psychiatres, par tout le monde. Il n'y a jamais eu une chose qui a été retenue contre lui.
Mais le combat de la parité, il a été gagné. Il y a de plus en plus de cinéastes, enfin, qui peuvent...
Mais c'est ça. Côté positif.
Ouais.
Ça, c'est le côté positif du mouvement MeToo. Mais c'est pas automatiquement la parité. Je pense pas que la parité, avoir autant de femmes que d'hommes, même s'il y a beaucoup moins de femmes qui sont réalisatrices, mais qu'on va chercher à tout prix autant de femmes que d'hommes dans un festival, par exemple, je trouve que c'est pas du tout une solution. C'est pas du tout une solution. Je pense que les femmes ont fait suffisamment de merveilles et elles ont de plus en plus des places. Et personne ne s'indigne que les deux femmes aient eu le Lion d'Or et le Lion d'Or à Venise, par exemple, à la suite, qu'en France, il y a eu deux palmes d'or pour des femmes.
Et c'est trop peu, ça, vous le reconnaissez.
J'espère qu'il y en aura d'autres, mais bien sûr.
Et est-ce que vous vous posez cette question, y compris à l'intérieur de votre journal Positif, est-ce que ça a secoué aussi ça ? Parce que quand même, généralement, le cinéma, ça a été longtemps porté par des critiques hommes.
Oui, mais à qui la faute quand nous recevons 50 critiques d'hommes et pas de critiques de femmes? Dès que les femmes nous envoient des critiques et qui sont de qualité, elles sont adoptées, elles deviennent membres du comité de rédaction. Il y a au moins 5 femmes au comité de rédaction, ce qui évidemment n'est pas la parité. On cherche pas la parité, on s'est pas dit on va faire entrer maintenant 14 femmes pour avoir autant de femmes au comité de rédaction que d'hommes. Mais c'est les femmes qui ne voulaient pas faire de la critique de cinéma. Sinon, elles auraient envoyé des textes à Positif et elles auraient été adoptées. Il y a eu de grandes critiques femmes à Positif, commencé par Françoise Audet, par Michel Firk, etc. Et aujourd'hui, il y en a plusieurs également. Mais c'est pas de notre faute si on reçoit pas des textes. On ne peut choisir des gens que s'ils se manifestent.
On se retrouve demain, Michel Simon, pour le dernier épisode de cette série d'Avoix Nues. Et vous nous parlerez de comment vous faites pour transmettre toute votre passion au cinéma, parce qu'en plus d'être critique, vous êtes professeur. À demain, Michel Simon.
Merci beaucoup, Toufi Kaken.
C'était Avenue avec Michel Simon, 4e épisode, réalisation June Loper, prise de son Yvan Turc, chargé de programme Daphné Abgral, coordination Florian Delorme. Une série de Toufi Kaken à réécouter et à podcaster si vous le souhaitez sur franceculture.fr ou l'appli Radio France.